police have uncovered reads like this. Words can't describe it.
We here, we are playing on a level that most will never see. You're gonna start the killing. You best start it right here.
Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma. Et donc avec cette bande-annonce très cryptique, très cinéma d'horreur, on va revenir finalement sur un film qui n'est pas totalement horreur, qui est plus que ça même. C'est The Devil's Reject, le film de Rob Zombie, donc sorti en 2005. C'était la bande-annonce d'époque lancée par Lionsgate Film. Et avec moi, j'ai Sébastien pour parler de la conception et même du film en entier.
Absolument, ravi d'en parler. 20 ans bientôt ce film, dis donc, l'année prochaine.
Oui.
C'est assez ouf.
Ouais. Et quand on le revoit, on a l'impression qu'il a été vraiment fait à la fin des années 70, début 80, tellement il a été soigné dans sa conception.
Alors tout à fait, tout à fait. Mais pas que.
On va y revenir là-dessus forcément. Et pour revenir déjà sur The Devil's Reject, il faut quand même revenir sur le concepteur derrière, sur le réalisateur, car c'est un élément très important aussi pour cette émission. C'est Rob Zombie, donc ce bon vieux Rob. Donc Rob Zombie, bien sûr, à la base, n'est pas connu comme réalisateur, mais surtout comme artiste, chanteur, musicien, interprète, notamment connu dès les années 80 avec son groupe underground White Zombie, qu'il va plus tard développer en solo, donc avec son nom Rob Zombie, tout simplement, et va garder ce côté un peu très métal, mais un petit peu plus pop à fur et à mesure dans son aspect, dans son style. On est sur du pop sous stéroïde quand même directement, mais
rock fait à la saucisse quand même.
C'est vrai qu'à ses départs musicalement parlant, Rob Zombie, donc on voit toutes ces influences, que ça soit donc musical, mais aussi forcément visuel avec le cinéma et aussi avec l'univers du cirque et du clown, car en partie sa famille vient de ce milieu-là.
Ouais, tout à fait. Et comme tu dis, une vraie appétence pour le cinéma et même la culture cinématographique déjà dans ses clips à l'époque de son.
Et surtout les clips qu'il a conçus lui-même.
Absolument. Il y en a plein qui font référence au cinéma allemand
par exemple Living Dead Girl,
expressionniste,
c'est totalement du Calgary,
tout à fait. Il y a de l'underground.
Never Gonna Stop, ça commence par je dis ça dans mes souvenirs, Never Gonna Stop commence par l'intro à la Orange Mécanique.
Ouais.
Donc, voilà,
en tout cas il y a plein de moi je me tenterai pas de revenir sur ce titre parce que ça remonte et que j'ai pas écouté du Rob Zombie depuis des années.
Moi aussi.
J'ai pas spécialement envie non plus, mais en tout cas pour dire que oui, il y a beaucoup beaucoup d'influences cinématographiques et de références.
C'est ça.
Du coup, naturellement, Rob se décide de passer le cap, de passer derrière la caméra et de commencer à faire des films tout simplement.
Surtout qu'il a commencé à toucher donc les clips vidéo pour notamment son groupe White Zombie, et puis après pour son propre sujet. C'est vrai que forcément, ça faisait à peu près déjà plus de 10 ans qu'il commence à toucher une caméra, donc l'envie de tourner dans le cinéma, c'est indéniable, c'était sûr qu'il allait le faire. Et il l'a fait donc avec son tout premier film, La Maison des Mille Morts.
Voilà, alors là, en termes de film référence, on y est complètement. Donc c'est du film Rob Zombie fait du cinéma d'horreur. On va commencer déjà par là.
C'est un film sorti en 2003, mais qui a eu une conception très longue, très douloureuse, et qui a eu un statut culte quasiment instantané.
Ouais, bien sûr, parce qu'il a toutes les ambitions et les maladresses du premier film qu'il peut y avoir En tout cas, celui-là, on est vraiment sur du film de psychopathes qui sont une famille, les Firefly, ça va avoir son importance pour le prochain film dont on va parler, qui vivent dans cette maison. Bon, on a des ados qui rentrent, ils se font buter un par un, point.
Ils sont débiles, débiles. Il y a des conneries, voilà.
Voilà, et le film, bon, le scénar, on s'en fout, il tient sur rien du tout, il n'y a aucun intérêt. Par contre, le film, c'est un vrai... Euh, une, un vrai euh, un vrai exercice de style de la part de Rob Zombie pour refaire tout le cinéma qu'il aime des années 70, surtout en faisant référence à tout ce qu'il aime du cinéma d'horreur, que ce soit De Palma, Toby Hooper, tous les grands noms du cinéma 70.
De Palma, il va reprendre le principe de double bonnette, par exemple.
Par exemple, ouais.
Donc la double bonnette, pour revenir un petit peu dessus, en fait c'est une double focale, hein, donc c'est-à-dire qu'on a une focale qui est concentrée sur le premier plan mais également sur l'arrière-plan, donc ce qui donne un espèce de léger flou artistique en fait entre les deux.
Ouais, et puis surtout d'avoir une mise au point sur deux éléments qui sont vraiment pas du tout dans la même profondeur de champ, ce qui est hyper stylé. C'est beaucoup d'inférences, mais le film est quand même, en tout cas je l'ai pas revu pour l'émission, dans mon souvenir il est très bruyant,
il est très foutraque, il est assez grotesque. Alors il se veut grotesque, se veut dans le gore, c'est son principe même. On est dans l'horreur pure et dure, très influencé par des Toby Hooper et autres, mais aussi il joue beaucoup sur les jeux de lumière, il joue beaucoup sur beaucoup d'éléments, on va dire, artistiques, mais c'est un film qui a un problème évident dans celui-là, c'est le rythme.
Ouais, c'est le rythme. C'est pas la... Déjà en mise en scène, tu vois, il y a Rob Zombie qui il commence à essayer des choses, tu sens qu'il a fait ses clips avant, il maîtrise un peu. Bon, il y a une lumière que je trouve des choix de couleurs trop appuyés pour moi, à mon goût, mais bon, il y a quand même une vraie volonté de réal derrière, quoi, tu peux pas lui enlever. Par contre, t'as raison, le rythme lui porte préjudice complètement. Et puis... il a un petit côté, regardez, j'aimais bien ça quand j'étais jeune, maintenant je vous remets tout ce que j'aime bien, sans vraiment prendre du recul sur les références qu'il veut mettre dedans. Pour la Maison des Mille Morts, en tout cas.
Pour la Maison des Mille Morts, en tout cas, parce que forcément, donc, qui dit culte, qui dit, on va dire, élément lucratif, car à l'époque, le marché du DVD marchait très très bien pour le cinéma d'horreur, forcément, ça va pousser donc les producteurs, et notamment Lionsgate, à envisager une suite, une idée qui n'a pas au départ assez plu à Rob, qui voyait plutôt, en fait, son suivant comme un simple prolongement de son univers. Et finalement, donc, il va se réorienter sur donc, ce que tu disais, la famille Firefly, et donc va commencer à écrire donc, The Devil's Reject, mais va pas du tout adopter le même ton, le même rythme. Il va vraiment faire même plutôt un virage à 180 degrés, en fait. Il va enlever la générosité, le côté grotesque, le côté grand guignolesque qu'avait le premier film, pour finalement clairement capter et relier en fait ses maîtres à travers l'image. Donc en fait, on va voir surtout un film qui va plus même s'apparenter à du road movie, il va plus s'apparenter même à du Sam Peckinpah, d'une certaine manière, à du John Borman aussi, si on pense à Deliverance, plutôt qu'au simple cinéma d'horreur.
Et du Arthur Penn aussi, Bonnie and Clyde, évidemment. Donc c'est marrant parce que en fait, c'est tous des réalisateurs des années 70 aussi, finalement.
Exactement.
Mais un autre pan qui est plutôt de du nouvel Hollywood, mais en tout cas un cinéma qui est autant, voire plus contestataire encore, et il se revendique vraiment là-dedans. Comme tu dis, le choix de The Devil's Reject, ça va être marrant de le prononcer 50 fois ce titre, c'est de vraiment prendre le parti d'un film qui serait beaucoup plus réaliste, entre guillemets, hein, bien entendu, quoique il y a très très peu d'éléments fantastiques, et ceux qui sont dedans vont être intéressants à analyser d'ailleurs, mais en tout cas il n'y a plus du coup cette grandiloquence et ce côté foire et tout. Non, on est vraiment sur du road movie avec une chasse à l'homme. Alors qui chasse qui, ça on y reviendra aussi, mais en tout cas avec et il épouse complètement ce grain de l'image propre au cinéma des années 70 de Peckinpah ou de Arthur Penn pour le coup, et embrasse, alors que le film est tout à fait actuel, il se passe dans cette période des années 2000, au moment où il a été tourné.
Voilà, on est en 1978 dans l'histoire, et forcément, donc là, on est donc en 2005, donc il a vraiment essayé de retranscrire tout ça à l'écrit d'abord, puis à l'image ensuite. Et c'est vrai qu'en fait, donc, le film, d'ailleurs, pour la petite histoire, donc c'est vrai qu'il y a aussi une grande différence qu'il a évité de faire par rapport à la Maison des Mille Morts. C'est d'ailleurs, le contexte n'est plus le même, on n'est plus caché dans une maison, on est donc en extérieur quasiment la plupart du temps. Et aussi, forcément, il y a aussi un truc qu'il a pensé, parce que je pense qu'en fait, ça a été un des gros problèmes du premier film, c'était le niveau budget. Là, cette fois-ci, donc, le budget a été rapidement bouclé à 7 millions, et c'est une chose très importante pour lui, car en fait, cela a permis en fait, de travailler sur le principe d'économie de budget, aussi d'une certaine manière. Et donc de faire bien avec peu de choses. Et donc arrive le tournage, d'ailleurs sous un soleil tonitruant en Californie, le film va donc commencer à être tourné donc, le 25 mai 2004 et va durer 30 jours. On va donc les voir tourner donc, en studio en partie, mais également aussi en extérieur à Lancaster et aussi à Palmdale. Donc on est vraiment sous le désert californien pur et dur.
Ouais. Alors moi, c'est toi qui as regardé voilà, le tournage, donc tu sauras plus en parler que moi pour le coup. Mais en tout cas, il y a deux grands axes qui sont importants à voir. En tout cas, les grands axes que prend Rob Zombie pour faire The Devil's Rejects, c'est premièrement au niveau du script, c'est que les antagonistes de la maison de Devil War vont devenir vraiment les protagonistes de The Devil's Rejects. Et ça se fait pas forcément dès le début du film, ça se fait au fur et à mesure où ça va vraiment être les héros. Et surtout, la grande question, c'est comment et quand on a de l'empathie pour eux, alors qu'on parle vraiment The Devil's Rejects, on parle de
tueurs, trois de psychopathes,
tueurs nécrophiles au dernier degré. Voilà, donc absolument des personnages repoussants. Et d'ailleurs, Rob Zombie va pas avoir la main légère pour montrer à quel point ils sont repoussants au début. En tout cas, ils sont vraiment des tueurs dégueulasses. Mais voilà, c'est le grand axe. Et l'autre, c'est la manière de filmer qui n'a plus rien à voir avec la maison des mille morts pour le coup.
Exactement.
Et qui déjà se fait ce choix. Tu vois, c'est en extérieur. On parle du grand désert californien, donc toutes les opportunités possibles pour filmer ça en faisant du grand angle, vraiment des grands espaces américains, quoi, tu vois, presque un western en fait. Et Rob Zombie ne fait pas du tout ça. Il y a beaucoup de caméras à l'épaule dans le film, beaucoup de gros plans sur les personnages, quoi. Donc voilà, il y a quand même une volonté comment on chope viscéralement le spectateur dans le spectacle qu'il nous montre.
Après, il va quand même donner, on va dire, quelques signes sur le principe même que le film reste une série B. On le voit par rapport à son cas. Donc on retrouve quand même notamment en partie les personnages de la famille Firefly, notamment dans les rôles principaux. On retrouve Bill Moseley ou encore qui joue le rôle d'Otis. On a aussi sa femme Sherry Moon Zombie qui est absolument partout dans ses films. Mais c'est vrai qu'on retrouve aussi d'autres seconds rôles très habitués au cinéma de genre comme Michael Merriman qui était reconnu notamment dans le tout premier La Colline des Yeux de Wes Craven ou encore Ken Foree qui a notamment travaillé avec ce bon vieux George Romero. C'est vrai que donc avec un casting très orienté série B, avec une écriture un petit peu plus différente que le premier, on peut le voir notamment rien qu'à l'histoire en fait, parce que finalement, pour résumer un petit peu The Devil's Reject, donc l'histoire se déroule en mai 78 dans une ferme où vit une famille de psychopathes sanguinaires, donc la famille Firefly, le shérif John Quincy Whittle, donc nouveau personnage inséré dans l'histoire.
Qui est le frère d'un shérif qui est mort dans le premier La Maison des Mille Morts.
Voilà, donc son défunt frère George qui a été assassiné par les Firefly. Donc au cours de la fusillade, donc deux membres de la famille vont parvenir à s'enfuir. Donc c'est Otis et le personnage de Sherry Moon Zombie. Donc commence alors une cavale pleine de cadavres et de tracts hors normes pour le shérif. Et donc souhaitant d'abord arrêter les Firefly, il se fait peu à peu justicier et décide, après avoir une vision de son défunt frère, donc de s'occuper des Firefly de la pire manière possible.
Absolument. Voilà, et donc le récit est vraiment construit comme ça, avec un donc le film démarre vraiment par une prise en je sais plus le mot, mais enfin les flics arrivent et ils vont pour choper la famille de psychopathes.
C'est un arrêt, c'est prise enfin pas prise d'otage, mais c'est un assaut.
Non, c'est juste
c'est
voilà, merci, assaut. J'ai prise d'otage en tête, c'est absolument pas ça, c'est plutôt eux qui prennent des gens en otage d'ailleurs dans l'histoire. Bref, et du coup ça commence vraiment comme ça et dès là c'est intéressant parce que le film démarre avec les flics qui arrivent et quelques plans tranquilles de ces trois et notamment la fille des psychopathes qui dort gentiment, etc. Et en fait, rapidement, Rob Zombie va vers de plus en plus de plans du côté des psychopathes et plutôt que des flics. En fait, dès la séquence d'intro, on dit « Ok, ce que je vais suivre, c'est pas tant du côté de la loi, c'est pas du côté de l'ordre, mais plutôt de ces rejetons, ces rejetons du diable, comme il les appelle, le beau patronyme, quoi. Et voilà, rien qu'en une fusillade, de choisir « Bah voilà, c'est de quel côté que je vais commencer à filmer. » Sauf que dans le scénario, on arrive où les trois premiers quarts d'heure du film, au moins, c'est les méfaits de ces psychopathes. Et ça passe par... ils prennent en otage des gens, ils vont les tuer après avoir joué un peu avec eux, ils vont les humilier. Enfin voilà, vraiment des choses qui sont abjectes. Et du côté du flic où on sent qu'il commence à... qu'il a une que c'est tout à fait personnel cette vengeance qu'il veut mettre en place envers ces psychopathes, mais qui pour l'instant voilà, on se dit bon bah il est plutôt en tant que spectateur, on a plutôt envie d'être de son côté jusqu'à la moitié du film où là Rob Zombie fait un virage
incroyable,
complètement les filmant ces psychopathes là juste ils veulent une glace,
voilà, c'est ça, cette scène là en fait, cette séquence en fait va commencer à nous questionner en fait, tout simplement, parce que finalement le cinéma de Rob Zombie n'est pas qu'un cinéma de référence, de filiation, on en parlera un petit peu après. C'est vrai qu'en fait on est également aussi forcément ce que l'on peut appeler le questionnement du point de vue. Donc jusqu'à quel point en fait est-ce qu'on peut adopter le regard du personnage perçu comme inhumain.
Tout à fait.
Et l'ambiguïté morale est partout dans le film. Il faut donc, il fait donc en fait plus ou moins descendre ces tueurs un peu charismatiques, même totalement charismatiques, de leur piédestal. Et c'est vrai qu'il y a toute cette séquence en fait où ils sont dans leur van et où il y a ce personnage donc de Cherry Moon Zombie, donc le personnage qui s'intitule Baby Firefly.
Baby Fireflies, ouais.
Qui demande à Otis est-ce qu'on peut s'arrêter pour prendre une glace. Lui absolument pas, on est chassé, traqué et compagnie, et du coup entre temps ils ont récupéré donc leur père Captain Spaulding qui dit oh, bah oui pourquoi pas une glace, et donc habilement donc Rob Zombie pendant qu'il y a cette espèce d'engueulade entre les trois membres, il y a un cut et on les voit tous manger une glace par la suite.
Oui, ce qui est une scène comique de comédie absolue.
Voilà, tout simplement. Bah,
vraiment, et puis en plus, là où c'est très intelligent, c'est que ça passe par quelques
ellipses.
C'est une simple cut, c'est un simple ellipse, une simple ellipse. Donc voilà, c'est vraiment une scène de comédie qui arrive au milieu de ça, alors que juste avant, vraiment.
On a eu une scène de prise d'otage, de torture, de meurtre dans un motel et tout le bordel.
Par eux, voilà. Et là, on arrive. Et c'est le virage que prend le film. Ouais. En même temps que ce flic qu'on suit va devenir de plus en plus obsessionnel par cette quête de vengeance et va devenir véritablement lui aussi l'antagoniste du film, en tout cas le film le choisit vraiment comme antagoniste à part entière, et surtout va devenir aussi psychopathe que les psychopathes qu'il recherche, quoi. Donc il y a vraiment ce jeu sur qui sont les monstres, qui sont véritablement les monstres, et à quel moment tout le monde ne peut pas devenir un monstre à tout moment. Ce qui peut sembler déjà vu, hein, c'est pas une idée révolutionnaire en soi, mais la manière dont Rob Zombie le fait est tellement radicale que le film reste encore unique aujourd'hui par ça, quoi.
Ah bah c'est un film qu'on peut signaler d'extrême quand même, d'une certaine telle manière, surtout psychologiquement parlant, parce que finalement il est loin d'être à couleur, même s'il a forcément ces scènes de violence typiques, on va dire, dans le cinéma d'horreur, parce que finalement on est moitié horreur, moitié road movie d'une certaine manière. C'est un film qui forcément n'épargne personne. Si les sauvages, donc Firefly, sont des parts comme des monstres, finalement le film dépend qu'il n'y a pas du tout de camp possible sur lequel se compter. Enfin, compter en tant que point de vue, quoi, d'une certaine manière. Même va nous questionner là-dessus, comme je le disais plus tôt. Donc, en fait, c'est vrai que il va donc marquer ce tournant, en fait, en humanisant ces monstres, en transformant finalement Weidel comme un psychopathe pur et dur également de son côté. Et tout le film, en fait, va, comment dire, développer, conceptualiser le principe même en fait de est-ce que j'ai envie de suivre l'histoire des Firefly, est-ce que finalement l'idée même de partir dans l'horreur pure et dure avec eux me conçoit totalement, ou alors est-ce que on partirait sur des personnages aussi abjects que Weidel s'entoure, comme les personnages que l'on voit avec Danny Trejo et Diamond Dallas Page.
Ouais, complètement, et avec aussi un choix, et là en le revoyant j'ai été assez fasciné par ce choix de point de vue même de Rob Zombie en fait, sur cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois, je trouve qu'il emprunte beaucoup aux films dossiers, c'est-à-dire de films où on peut voir des presque des faits d'entrée d'accusés, avec ces espèces d'effets de montage, de photos qui défilent. Hop, à un moment donné, il va faire un plan fixe sur un plan, voilà, vraiment de...
Ou un freeze frame, exactement.
Comme pour... voilà, qui reprend vraiment les codes des films sur les serial killers, des films dossiers, et qui ramène à ton propre point de vue, toi, de voyeuriste, par rapport à cette fascination
et
des monstres.
Et ça, c'est aussi l'intelligence et aussi forcément la différence notable qu'il y a avec La Maison des Mille Morts, c'est qu'il va finalement, en fait, ralentir le temps, il va conceptualiser même la notion de temps, même dans ce film, et proposer des temps de pause que l'on voit très habituellement dans ce genre de road movie ici.
Ouais, ce qui revient vraiment, encore une fois, nous reposer la question de... Mais pourquoi moi je suis fasciné, pourquoi nous d'ailleurs, quand même, On a à peu près tous quand même une fascination sur ces histoires de tueurs en série. Je veux dire, on est encore une époque où Netflix n'arrête pas les productions là-dessus, ça se voit.
Oui.
Voilà. Et du coup, Rob Zombie, mais juste par ces frises, ces plans fixes là, figés, se pose la question, ben ouais, ça te ramène à toi en fait en tant que spectateur.
La violence à l'écran, la violence à l'image, telle qu'elle est conceptualisée, telle qu'elle est développée donc dans ce film, qui date de 2005, finalement en fait on est dans une œuvre anachronique, mais... C'est là où il faut toujours revenir un petit peu toujours sur la conceptualisation du film quand il a été développé. Parce que finalement, sa conception, son discours, en fait, tout en s'avérant extrêmement actuel, et même pétri de l'angoisse et la colère, forcément penser que le film date de 2005, on est post 11 septembre.
Ouais. Et il y a un rôle, et ça m'a frappé aux yeux quand je l'ai revu, un rôle de la télé qui est hyper important dans le film. Elle apparaît tout le temps, et alors souvent au second plan, vraiment, c'est rare que voilà. Mais il y a souvent un personnage qui regarde la télé où il y a un truc en fond qui se passe. Et à chaque fois, ce qui est dit est assez intéressant. Bon, au-delà des blagues, genre, il y a les présentateurs qui vont se poser la question, ouais, alors les sectes satanistes, c'est un vrai problème, mais oui, comment on peut battre le fléau? Et pour ça, ils vont montrer l'album de Oyster Cult, où il y a la musique qui est dans Halloween, The Reaper, quoi. Donc voilà, encore Rob Zombie qui fait de la référence, etc. Mais une des premières fois qu'on voit la télévision, c'est qui qu'on voit? C'est le clown qui est joué dans Les Psychopathes.
C'est Captain Spaulding avec sa pub, avec le singe, la guenon et
exactement.
Tout le bordel.
Et là, tu te dis, ce mec, dans ce pays, c'est possible que ce genre de mec puisse faire une pub à la télévision. Parce qu'il a suffisamment mis de pognon là-dedans pour le faire. Et donc, voilà, la télévision, le pays permet ça et donc permet que cet outil-là de la télévision puisse diffuser n'importe qui, avec n'importe quel discours. Et ça, Rob Zombie, il n'est pas tendre du tout sur les États-Unis de l'époque, par rapport à ça.
Ah non, c'est un film très intelligent, je pense, sur le développement et la peur en fait, actuelle qu'avait la société américaine d'époque, et aussi actuelle, comme je dis, post-11 septembre. Même le personnage, par exemple, du shérif Wydell, en fait, est très représentatif de cela, en fait. Donc, le personnage qui veut absolument, qui est pourtant figure d'autorité, qui veut punir le mal absolu, qui se transforme lui-même en monstre, ça adopte les méthodes du camp adverse. Très clairement, on peut faire des parallèles monstrueux sur ce qui s'est passé après le 11 septembre.
Ah mais complètement. Complètement. Et puis il y a même plus largement des rapports assez savoureux. Il y a ce, je ne sais pas si tu te souviens de ce moment de cut où Otis est en train de tuer une des victimes et il se met à crier et paf, cut, et le cri se transforme en chant de Muddy Waters qui passe à la télé, qui est en train de chanter du blues, et c'est assez génial quoi, en un effet de montage, de réunir cette violence là à la violence dont on chantait déjà avant et qui circulait déjà en fait à l'époque. Voilà, il y a plein de rapports et qui font que, comme tu dis, quoi, ces personnages-là sont typiquement des serial killers qui hantent l'Amérique, quoi, qui sont là et qui sont dans l'ADN même des États-Unis.
Oui,
en fait.
Qui sont dans, parce qu'en fait, voilà, c'est des rejets du diable, mais ils sont sur le territoire américain d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'en fait, c'est bien que tu parles de musique parce que c'est aussi un élément très important. Forcément, Rob Zombie est très affilié à la musique. L'élément musical du film est d'une importance capitale.
Ouais, complètement.
Tu parlais de Muddy Waters, mais on pourrait parler également d'Otis Rush. On pourrait parler aussi forcément de la Inner Sky, forcément avec la fin monumentale. Saturday Night Special aussi, qu'on entend juste un petit peu avant. Donc c'est vrai qu'en fait, la musique, d'ailleurs dès le départ, on a du Blind Willie Johnson, on a vraiment une importance capitale déjà pour contextualiser l'époque, la période, mais aussi forcément pour donner toute une âme suffisante à ce film.
Ouais, et c'est la musique qui ramène du romantisme à tout ça, en fait. Ce qui n'est pas tellement dans le film, au contraire. Tu vois, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que Rob Zombie, jamais dans la réal, va essayer de sublimer ses personnages, quoi. C'est simplement par des discussions, des choses qui se font, qui fait « Ah ouais, non mais attends, mon point de vue commence à changer. » Mais lui ne va pas insister dessus. C'est pour ça que ça marche d'autant plus. Par contre, les musiques ont ce rôle-là, effectivement. Et c'est souvent des musiques avec un une petite mélodie un peu mélancolique comme ça, quelque chose d'assez doux, pour finir sur le chant absolu des années 70 sur la quête de liberté, qui était le Freebird et Lynyrd Skynyrd, qui parle effectivement de ce désir absolu de liberté que Rob Zombie, du coup, questionne dans ce film aussi.
À quel moment on s'arrête cette liberté aussi.
Ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'elle nous amène, cette liberté dans tout ça, quoi. Et donc oui, c'est assez fondamental, mais ça rejoint aussi le regard tendre que Rob Zombie a pour ses personnages.
Oui, parce que Devil's Reject, en fait, est fondamentalement aussi très important sur, comme on disait, l'aspect du point de vue, en fait. C'est un film qui, par exemple, comme l'a développé également Scorsese avec Taxi Driver, quand on suit un personnage qui est forcément très tendancieux psychologiquement parlant et qu'on le suit dans ses itinéraires, ça reste aussi un petit peu forcément tendancieux d'une certaine manière de comment il va être développé et compagnie. Mais on est très loin d'être des personnages à la, des visionneurs à la Télérama et compagnie, on va dire ça comme ça, pour dire que forcément on sait à quel point c'est des personnages mauvais. Mais en fait, c'est toujours ce questionnement de comment humaniser des personnages, même dans ce genre-là. En fait.
Ouais, c'est ça.
Parce que à quel moment, en fait, reste-t-on humain ? Est-ce que finalement, le film, en fait, va poser cette question tout du long, en fait ?
Ouais, puis te dire profondément que c'est son pouvoir de réalisateur, pardon, et le pouvoir du cinéma de rendre, tel ou tel personnage sympathique.
Voilà. Mais c'est vrai que oui, par exemple, on a d'autres styles aussi très importants qui reviennent en majeure partie sur cette volonté, en fait, de jouer là-dessus. Et même en parlant de la réale, de la mise en scène, visuellement, en fait, Rob Zombie aussi a fait appel à un élément très important de ce film, je trouve, qui s'appelle Phil Parmet. Phil Parmet, c'est le directeur de la photographie. Donc, c'est un spécialiste du documentaire. Et en fait, ce côté docu, on le ressent énormément à l'image, pas seulement par ses principes de caméra à l'épaule et compagnie, mais en fait, on a aussi, surtout, en fait, il a décidé de filmer notamment dans pellicule 16mm, donc qui ont été rescannés numériquement, et donc avec un format 1.85. Donc on est très loin du cinémascope qu'on pourrait imaginer pour les grands ensembles américains.
Bah, ouais.
En fait, ce qui intéresse Rob Zombie, c'est de se concentrer sur les personnages et sur les visages. Et ça se ressent complètement.
C'est à hauteur d'homme tout le long du film.
Oui.
C'est le seul plan de haut, il arrive qu'à la fin, au moment où il s'échappe en voiture. C'est
voilà, il y a un plan de bas vers le début, quand Cherry Moon Zombie est dans les marais pour montrer son derche, mais sinon, à part ça.
Oui, mais parce que Rob Zombie adore filmer le derche de
Rob Zombie.
Bon, oui, ça le regarde. Mais en tout cas, il y a quand même. Tout est à hauteur d'homme, quoi, tu vois. Ce qui fait aussi la viscéralité des scènes d'horreur, parce qu'on n'en a pas. Enfin, voilà, il y a quand même. Rob Zombie sait très bien filmer l'horreur, quoi.
Et parce qu'il a des très bons second rôles aussi. Je pense notamment au personnage de... Pardon, j'ai oublié le nom. L'acteur qui a notamment joué pour Clint Eastwood. Geoffrey Lewis. Donc, il joue le chef du groupe de banjo. Enfin, de...
Ah, oui.
Qui parle notamment qu'il a serré la main de Johnny Cash et compagnie.
Oui, oui. Donc, c'est très drôle, ça, d'ailleurs, ce personnage-là.
Oui, oui, c'est un personnage très drôle, mais qui, en fait, on voit tout le principe de la naïveté que peut donner, en fait, ce genre de personnage face à la rencontre de vrais psychopathes, en fait.
Ouais, ouais, complètement. Et qui se fait avoir par une simple petite blonde qui le chauffe sexuellement, quoi. Et il se fait avoir comme ça. Mais tout le long du film, oui. Quoi, tu vois. Quand même un regard sur le masculin, c'est pas tendre non plus, quoi.
Non.
Dessus, mais de toute façon, personne n'est à sauver dans ce film, hein, clairement, de toute manière. Mais tu parles de second rôle, il y a aussi quelque chose derrière ce titre, The Devil's Reject, tu vois, qui parle quand même de tout un pan du cinéma qui a été considéré aussi comme le rejeton du diable, quoi.
Ouais.
Et qui vient presque être réhabilité dans le film. Je veux dire, il y a plein de références comme La Maison des Mille Morts, mais est beaucoup plus en fond dans celui-là, beaucoup plus intelligent.
Bah, on est dans un cinéma de filiation, on n'est pas dans un cinéma d'hommage comme pouvait être La Maison des Mille Morts. C'est-à-dire, on voyait Rob Zombie un peu régurgiter toutes ses influences, les mettre bien en avant dans La Maison des Mille Morts. Cette fois-ci, en fait, on est vraiment dans un cinéma de filiation, parce que toutes les références que pouvait penser notamment à la Peckinpah, enfin Peckinpah, je pense qu'on le ressent pas mal dans ce film, mais c'est surtout, en fait... ça sert à appuyer la mise en scène, ça sert à appuyer la situation, la mise en place des personnages, en fait.
Ouais, puis même au-delà de ça, Peckinpah, c'est vraiment dans la direction artistique globale, quoi, tu vois. Mais je parle vraiment de moments où c'est vraiment, les références sont là. C'est-à-dire que, moi, le début, Massacre à la tronçonneuse, on le retrouve assez souvent. Moi, il y a le début où il y a les découpages,
puis la maison, la maison, forcément, des Firefly fait énormément
la maison
penser.
Des Firefly, le moment où la victime avec qui il a mis le masque de peau, elle se fait renverser par un poids lourd comme un des frères dans Massacre à la tronçonneuse. Ce qui est assez savoureux, c'est que là, Rob Zombie décide de filmer l'après, où on retrouve toutes les tripes sur la route, et avec des gens qui font le commentaire, ah bah oui, voilà ce qui se passe, etc. Donc il y a quand même un regard, même sur cette scène, qui est assez savoureuse. Il y a la fin, il refait Shining avec le shérif qui pourchasse la fille dans les labyrinthes dans du métable, et lui, il est avec une hache, il dit, je crois, même deux ou trois répliques similaires à Shining. Bref, il s'éclate encore là-dessus, mais à aucun moment, ça prend le pas, et ça raconte quand même encore une fois un amour et presque une volonté de réhabiliter et de remettre sous les yeux, mais voilà les rejetons que vous avez développés
notamment
voilà.
À travers les médias et autres,
complètement.
Mais c'est vrai que c'est une des forces en fait de Zombie, et d'ailleurs de Parmet aussi dans sa mise en scène, c'est que le fait de l'avoir filmé en pellicule, ça permet de capter forcément cet esprit, cette ambiance en fait totalement disparue, et qui était une ambiance paranoïaque, hein, parce que dans les années 70 c'était la parano absolue sur la société américaine, qui découvrait ses tueurs en série mis en avant et compagnie, et il n'y avait pas de limite à cette époque là à travers la télévision.
Pas du tout.
Extrêmement soucieux du détail, d'ailleurs ça se voit que Rob Zombie développe à fond cet univers-là. Il va même sortir un album complet du faux groupe Banjo & Sullivan, donc le groupe qui se fait décimer. La recherche de Rob, en fait, est très très simple avec ce film. C'est que il voulait absolument que ce film, en fait, puisse être casé entre un Tobey Hooper ou un Wes Craven de l'époque.
C'est clairement, enfin voilà, c'est montré quoi, hein, il y a vraiment cet esprit crasseux. Il y a évidemment, tu penses à la colline à des yeux, parce qu'il y a aussi
Michael Merriman,
absolument,
voilà,
qui
mais
joue
tout,
dedans,
tout est fait
et
pour
un second
aussi,
rôle, bien sûr. Non mais voilà, et le film parle de ça aussi, de The Devil's Reject. Moi j'ai vu ça aussi, quoi, c'est toutes ces figures là qui ont été rejetées aussi à l'époque, quoi, tu vois, ou qui étaient pointées par la critique, ou même par les comités de censure qu'il pourrait y avoir, toute forme qu'elle soit, en montrant, mais voilà les horreurs qu'on nous montre. Et vraiment, là, de Rob Zombie, ne pas seulement les embrasser complètement avec sa caméra et de les montrer dans toute la violence qu'il pourrait mettre dans le film, et il ne s'en prive pas, mais aussi de ramener tous ces seconds couteaux-là qu'on a vus à l'époque. Pour résumer, à la fin du film, ils se font choper par le shérif, ils se font torturer, etc. Et ils s'en sortent par un Deus Ex Machina des plus... what the fuck de l'histoire du Cinoche, quoi, celui-là.
On peut le dire d'une certaine manière.
Il est lourdeau, celui-là.
C'est son défaut, mais finalement, il est quand même assez. Moi, je l'accepte d'une certaine manière.
Ouais, moi, je l'aime bien. Je l'accepte. T'as raison, le mot est plus juste. Je l'accepte. Parce que c'est une espèce de créature complètement difforme.
Oui, le personnage dont on parle, c'est Tiny, d'ailleurs, qui est campé par Michael McCreary, qui est décédé peu de temps après la sortie du film. Peu de temps avant, pardon, la sortie du film, qui était déjà dans la maison des mille morts, qui est en fait leur petit frère, qui est une masse monstrueuse de 2,20 m, qui est brûlé, en fait.
Qui est brûlé, tu sens qu'il y a eu 4 générations de consanguinité derrière.
Va finir dans la cabane.
Tout à fait. Mais...
Donc, il va finir mourir dans la cabane. Enfin, il préfère retourner dans les flammes plutôt que de vivre en dehors.
Ouais. Alors ça, mais vraiment, il vient les sauver, après il retourne dans le feu et
c'est
point.
Ça.
Quoi. Bon,
voilà.
Et bon, c'était pour qu'il y ait une jolie scène à la fin, on lui en veut pas. Mais tu vois, ce type a vraiment la gueule d'un Freddy Krueger, quoi.
Oui,
tu
oui.
vois. Il a un peu le physique d'un des tueurs de la colline à des yeux de Wes Craven. Enfin, il y a tout un pan en lui-même, dire je vais vous faire sortir, je vais vous sauver pour le grand final.
C'est
et
vrai
moi,
que...
je retourne brûler.
Voilà.
Et donc il y a quand même tout un discours de Rob Zombie sur ce cinéma-là à la fin. Même juste dans ce Deus Ex Machina.
Mais Rob Zombie a une fascination pour les monstres, comme l'avait Tim Burton, comme l'avait aussi Lynch d'une certaine manière. Donc en fait, surtout forcément, lui qui vient du milieu du cirque, il en a vu, je pense. Et le fait de le montrer à l'image aussi, c'était une façon aussi de révéler un peu toute cette imagerie. Parce que finalement, donc, le personnage de Tiny. Qui est atteint de dysmorphisme, l'acteur est atteint de dysmorphisme, c'est indéniable. Ils lui ont mis juste 2 heures de couche de maquillage sur la gueule, c'est tout.
Ouais, c'est ça.
Et le reste, en fait, c'est vraiment son corps. Hein, donc voilà. Et ça montre aussi à quel point que toutes les références mises en place, c'est un film qui se veut témoin de son époque.
Complètement. témoin et filiation, c'est assez juste hein, quand tu dis filiation, en tout cas de passation.
C'est ça.
Ce qui est intéressant, moi, en plus, c'est que le film que fait après Rob Zombie, c'est Halloween, si je dis pas de bêtises.
Il est, oui, il a été pris pour le remake de
C'est juste après The Devil's Reject. C'est ça, ouais. Et donc, c'est très intéressant où là, vraiment, après The Devil's Reject et La Maison des Mille Morts, il se plonge carrément dans une des œuvres qu'il. Bah, bon, déjà, un des monuments, ouais. En tout cas, un film phare de cinéma d'horreur.
Qui a été
phare pour tous les réalisateurs d'horreur encore aujourd'hui, et il s'attaque à faire un remake déjà, bon, faut y aller quoi, ouais. Et pour, quand vous l'avez vu, c'est hyper intéressant comment il traite Halloween
surtout
aujourd'hui.
Surtout quoi, là,
il le
fait très différent de ce qu'a fait Carpenter, ouais. Et heureusement d'une certaine manière. Il va même démystifier un peu le mythe de Michael Myers dans le 2, hein, notamment lui retire le masque,
ouais.
Et c'est vrai qu'en fait, voilà, Rob Zombie, c'est un mec qui prend des partis pris, qui marche ou qui ne marche pas, mais en tout cas, il faut le dire, avec Devil's Reject, il a réussi totalement son pari là-dessus.
Ouais, et pour moi, The Devil's Reject, c'est un peu avant, ça prépare ce que va faire Ty West après, des réalisateurs comme Ty West plus tard.
Ouais, effectivement.
Quand Ty West fait House of the Devil, on est exactement dans la même démarche, en fait.
Très très proche, avec une qualité de grain très pellicule, pour référencer les années 70, et alors que c'est un film qui date des années 2000-2010.
Ah mais complètement, tu montes à quelqu'un ce House of the Devil, tu lui dis c'est les années 70 qu'il est sorti, il va pas te contredire, quoi. Tout est là. Il y a l'exercice de style. Et en fait, là où je rapproche les deux, c'est qu'on n'est pas juste dans le postmodernisme de bête et méchant, quoi. Tu vois, vraiment, il y a quelque chose de vraiment réflectif sur ce média-là et ce genre-là, quoi.
Ah, surtout que Devil's Reject, en fait, on est très loin de l'expérimentation que proposait Rob Zombie dans ses clips,
ouais.
Et un peu dans La Maison des Mille-Morts. Là, il est vraiment sur un truc très, très stylé. D'ailleurs, on peut le voir dans un documentaire qui s'appelle 40 Days in Hell, qui revient sur la conception du film, où il travaille à fond également sur le storyboard. Il a travaillé le storyboard, il l'a travaillé avec notamment aussi un autre artiste pour vraiment développer tous les plans point par point et les choses qui ont été enlevées par la suite, quoi. D'ailleurs, très intéressante aussi dans le documentaire, on voit qu'il y a pas mal de scènes coupées et notamment en fait il a enlevé tout ce qui était proche au surnaturel qui était présent dans La Maison des Mille-Morts, notamment il y a le personnage de Mr. Devil qui a été cuté. Et ça permettait aussi au film de se rapprocher encore plus du réalisme que proposait Zombie à la base.
Ah ouais, bah c'est un complètement. Mais c'est une très bonne idée. Parce
c'est une excellente idée. Hein.
Le fantastique aurait donné un recul qui n'aurait pas été juste par rapport au film. Là, c'est vraiment du film de serial killer, de tueur psychopathe, point, quoi. Tu vois. Et c'est du. Non, j'allais dire survival, non, parce qu'on ne suit pas du tout les victimes, quoi. Mais en tout cas, il n'y a rien de fantastique et ce qui fait sa force aussi. Et c'est ce qui fait que bah, tu vas t'attacher à ces personnages-là, en fait. Et pour arriver alors à cette fin, parce qu'on va bien en parler quand même de cette fin, de eux qui s'enfuient au bord d'une voiture. Alors je crois que c'est c'est une voiture typiquement ricaine.
Mais
quoi.
Typiquement ricaine, cabriolet, voilà.
Ouais, je sais plus quel modèle, mais enfin bon, voilà, on y est. Et en fait, la séquence se fait et on entend Freebird de Lynyrd Skynyrd, vraiment le truc qui te prend à t'émouvoir, quoi, à te dire. Et avec ça, il te fait eux qui sont vraiment en douleur parce qu'ils viennent te faire un peu torturer avant dans la voiture. Et donc, ça, cette musique qui se lance et en même temps, t'as un montage alterné avec des images au ralenti de eux quand ils étaient heureux, vraiment d'insouciance. Et
surtout, il y a le côté insouciance, il y a le côté beau. Et là, en fait, l'intelligence aussi de la mise en scène, où on voit Otis, on voit son regard, on ne sait pas ce qu'il regarde, champ contre champ, c'est le barrage de la police.
Ouais. Et que
et là, on comprend.
Et on comprend que, soit ils se rendent, soit ils meurent. Bon, ils ne vont pas parce qu'on les a vus pendant 1h45, on sait qu'ils ne vont pas se rendre.
Un dernier baroud d'honneur.
Ils décident de faire un dernier baroud d'honneur et de finir en pétaradant à la Peckinpah.
Là, pour le coup, là, c'est totalement à la Peckinpah.
Complètement, avec l'envolée de la musique, hein, vraiment, plus ils avancent, ça tire, paf, ils se prennent des coups, et le choix de Rob Zombie, moi, que je trouve incroyable, c'est de pas finir exactement sur cette envolée héroïque, quoi, mais juste, paf, au bout d'un moment, on entend juste le silence et des battements de cœur, fin,
voilà,
générique. Et là, ça te renvoie déjà une froideur incroyable qui contrebalance avec toute l'envolée lyrique qu'il y avait sur la musique
juste avant,
qu'il y avait juste avant. Et là, c'est vraiment la froideur. Et de ramener Rob Zombie, ok. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a raconté. Tout ce cinéma-là, tous ces mecs-là, effectivement, c'est très cinématographique, j'adore. Mais au fond, c'est ça. C'est la mort, c'est ça, quoi.
On
tu
reste
vois
humain.
L'horreur est là, elle est là, voilà, exactement. Quoi. Mmh.
Non, mais ouais, c'est d'une force incroyable. Pour moi, la séquence de fin est absolument magnifique. Elle est super bien montée, elle est super bien expliquée, elle est d'une limpidité, et ça montre à quel point aussi le langage cinématographique n'a pas besoin forcément du dialogue pour avancer. Là, on le voit à travers la musique. En plus, très intelligent d'avoir utilisé Freebird, forcément, parce que la musique part totalement très calme, puis après, elle s'envole. C'est un morceau qui est très long, qui permet aussi de travailler sur le temps, l'ambiance. Mais elle-même, du coup, Rob Zombie va également jouer sur comme tu disais, sur le côté un peu revivement des personnages qui repensent aux meilleurs moments de leur vie, avec la mise en place, l'arrivée, le contexte, la situation. Paf, en face, il y a le barrage de la police. Donc la musique change, l'image qui est, alors eux en fait ils ont filmé en caméra à l'épaule, ils ont tourné tout autour de la voiture, et finalement en fait au montage on voit en fait cette espèce de ralenti un peu saccadé qui permet encore plus de capter les visages en fait et les mouvements, ouais. Et ce qu'ils vont, comment vont-ils réagir par la suite, et on comprend qu'en fait forcément le Barry Donner arrive parce que la musique se lance en même temps,
se lance,
tout simplement,
et, après,
et surtout qu'on la connaît très bien cette musique Freebird, elle a été utilisée maintes et maintes fois. Et pourtant, Rob Zombie arrive à la magnifier avec cette séquence-là, quoi.
Ouais, mais ça parle complètement. Déjà parce que c'est une musique d'époque, et parce que qu'est-ce que tu veux dire dans les années... Enfin, quelle musique tu prends pour parler vraiment de la liberté du rêve américain aux années 70 ? Freebird en fait partie, quoi, évidemment. Mais vraiment, ce choix de friser complètement les personnages, vraiment, hop, mort, silence, battement de cœur,
point. Et puis la casse, ouais, la casse totale avec eux qui se prennent des balles, battement de cœur, puff, cut.
Ouais, ce qui fait un bel adieu même à Rob Zombie sur ces personnages-là, ouais. Quoi. Bon, adieu si on prend pas en compte le troisième volet, bien
alors...
entendu. Mais que je n'ai pas vu. Bah, d'ailleurs, je me refuse toujours à le voir parce que je peux pas imaginer une suite à ça.
On va en parler un petit peu sur l'après. Donc, il faut le savoir que le film, en fait, a été plutôt bien accueilli par la critique spécialisée, moins par d'autres, hein, Télérama, bonjour. The Devil's Reject a réussi donc un score honorable aux USA, notamment malgré, on va dire, sa distribution assez faible. Il est quand même soutenu par Lionsgate, mais attention, la Lionsgate de l'époque, c'est pas le Lionsgate de maintenant,
non.
Qui travaille avec des films monstrueux comme Godzilla et compagnie, hein, on est vraiment sur encore un cinéma indépendant, et donc avec un faible circuit, avec une distribution assez faible, faible circuit forcément qui a été cuté par la classification de censure américaine, hein, donc le film a été forcément classifié R. Le film a quand même eu un petit score honorable. La quasi-totalité des recettes vient d'Amérique du Nord, hein, pour le film, donc on est sur un résultat d'à peu près 20 millions. Et The Devil's Reject, en fait, est sorti en France, chez nous, en juillet 2006, pour un score totalement inaperçu, donc de 29 141 spectateurs pour 70 cinémas.
Oui.
Mais bon... c'était déjà qu'ils sortent en France, c'était incroyable, ça. Là.
Ouais.
Parce que quand on y repense, c'est vrai qu'en fait le cinéma de genre quand même est toujours très il y a toujours de la place pour le cinéma, que ce soit le cinéma français, américain, même étranger. On a un réseau de distribution de salles qui est quand même assez fantastique, et que beaucoup de nos compatriotes européens nous envient
à
mort.
Oui. Ah bah oui.
Et c'est vrai qu'en fait, avoir des films comme Devil's Reject, avoir 70 entrées, c'était quand même aussi un porte-étendard de ce que pouvait ramener encore un peu plus le cinéma d'horreur par la suite. Et c'est vrai quand on voit même des films qui sont... comment dire ? C'est vrai que Devil's Reject, moi, je le considère comme un film aussi qui parle d'une certaine manière, politiquement parlant. Alors, on est très loin de certains films d'horreur qui sont juste de purs produits. Comme, par exemple, là, on va avoir bientôt Terrifier 3 en salle, qui est juste
regarde,
c'est rigolo. Pff, et voilà, regarde la barbaque, et voilà. J'essaie de faire les bruits.
Non, mais t'as raison, en termes de cinéma purement référentiel qui ne va pas très plus loin que ça, c'est un bon exemple par rapport à Rob Zombie.
C'est très mauvais d'une certaine manière,
ça, je te fais confiance.
Directement. Puis j'ai pas envie de me retaper un film de 2h40 sur de la barbaque. Mais c'est vrai que Devil's Reject, en fait, voilà, c'est un film qui a quand même pu se développer même hors du circuit américain, et ça, ça s'est encore plus développé, et c'est pour ça qu'il est devenu culte avec le marché du DVD.
Avec la vidéo, ben oui.
Parce que le marché de la vidéo avait une importance capitale à l'époque. Hein. Il faut le savoir, c'est qu'il a quasiment même doublé ses recettes avec rien qu'avec ça. Et finalement, reste à ce jour un... je crois, le meilleur score de chez Rob Zombie d'ailleurs dans les ventes de marché. Bon, même si par la suite, forcément, la carrière de Rob Zombie, je trouve qu'en fait, il a eu son pinacle avec ce film-là. Mmh. Car l'après, ce n'est plus trop la même, n'est-ce pas, mon cher Seb ?
Ouais, alors après, c'est marrant parce que Halloween. Alors, le 2, c'est sûr qu'il est sorti directement en DVD.
Ouais,
le
ouais.
1, je sais plus.
Le 2 avait eu énormément de bisbilles avec leur distributeur, ouais. qui, je tiens à rappeler, était Miramax.
Coucou.
Voilà.
Ouais, mais déjà, mais le premier était sorti en salle, hein, je crois.
Ouais, ouais, le premier était sorti en salle. On a réussi à l'avoir en salle même chez nous.
Ouais. Bon, qualitativement, c'est son meilleur film, The Devil Rejects. Mm-hmm. De toute façon, ça, c'est indiscutable. Moi, Halloween, je trouve vraiment pas inintéressant ce qu'il fait avec.
Son premier avait un postulat de base qui était plutôt intéressant parce qu'en fait il voulait pas faire comme Carpenter.
Ouais, et puis il se réapproprie complètement Halloween, quoi, tu vois. Et voilà. C'est un film de Rob Zombie pur et dur.
On a eu très peu de réalisateurs qui, à l'époque, des remakes à foison. Mm. Il faut quand même le signaler. Hein. On avait notamment par exemple Marcus Nispel qui avait fait Massacre tronçonneuse. Mm. On a eu donc Alexandre Aja, on en a déjà parlé pour La Colline des yeux, qui je pense est un meilleur statut de remake de tous les. Enfin, le meilleur film dans tous les statuts de remake d'horreur des années 70. Halloween en fait est arrivé d'une certaine manière. En plus, c'est vraiment un peu le gros trophée par excellence, c'est-à-dire on va retoucher peut-être à l'excellence même du cinéma de genre.
Ouais, ouais. Bah, après, ça a été fait après Massacre à la tronçonneuse, oui, le remake, oui, tu oui, vois, oui. qui n'était pas raté, enfin qui n'était pas une purge non plus, et qui avait plutôt bien marché, qui
était en fait, c'est là que je vais être un petit peu peut-être méchant là-dessus, c'est que finalement avec une production faite par Zack Snyder, ça montre à quel point en fait que le film était juste là pour faire on va dire, bah voilà quoi, on a fait un remake.
C'était Zack Snyder le premier.
Ah non, c'est Michael Bay, pardon, je confonds.
Ah oui.
C'est Michael Bay.
Bon, alors, confondre Michael Bay et Zack Snyder, oh là, enfin. Pardon, Michael. Désolé, Michael.
Non, parce que. Totalement désolé, Michael, parce que c'est quand même le mec qui a commencé à dire, bon, l'IA, c'est naze, hein, ça fait de la merde, faut pas le faire. Voilà. Voilà, c'est le premier à le dire quand même,
ouais,
Michael Bay. Il faut quand même
c'est
le
Michael Bay. On l'aime bien, grand et grand Michael Bay, on le redit.
C'est un cinéma d'auteur.
Ben alors complètement.
Non, si vous n'êtes pas d'accord, regardez Pain and Gain.
Ben regardez ces films, point. Bon, en tout cas, il y avait une place pour commencer à retoucher à ces films d'horreur-là avec Halloween. Et encore une fois, voilà, Rob Zombie, je trouve qu'il se réapproprie complètement le premier. Le deuxième est ultra bancal. Il est. Hein, mais aller jusqu'au bout de sa démarche, c'est déjà assez courageux de sa part, tu vois. Comme tu dis, se réapproprier complètement le personnage de Michael Myers. Certes, ça manque pas de défauts, mais je trouve ça encore assez courageux de l'avoir fait. Donc bravo. Et après, bon, ben, moi j'ai vu 31 qui était un peu fourre-tout,
bah,
mais
qui a un sous Devil's Reject.
Oh, bah ouais, mais et qui avec des séquences que je trouvais vraiment réussies quand même.
Oui, oui, oui.
Mais c'est un sous Devil's Reject qui est beaucoup moins intéressant. Et puis surtout,
puis après, il a voulu faire après Lord of Salem où il s'est dit, tiens, je vais faire mon Kubrick, je vais faire des plans symétriques.
Ouais.
Mais le film est malheureusement très lent, il a un problème de rythme évident.
Ouais, il est chiant, comme la mort. Faut l'admettre. Donc voilà, mais c'est quand même un mec qui a un gros amour du cinoche, quoi. Du coup, on peut jamais trop lui en vouloir, même quand il loupe un film, finalement.
Non, parce que je trouve qu'en fait, ses films restent sincères. C'est-à-dire que quand il a une proposition, d'une certaine manière cinématographique, à travailler sur tel ou tel genre ou tel ou tel style, Devil's Reject, voilà, il s'est dit, je vais pas faire comme La Maison des Mille Morts, je vais partir sur autre chose de très très différent. Certes, on me pousse à me faire une suite, ok, je vais reprendre les Firefly, mais je vais faire quelque chose d'autre.
Ouais, c'est ça, c'est que.
Et c'est ça que ça marche.
En fait, dans tous les Rob Zombies, il y a un peu tous ces éléments qu'on a dit, mais souvent pas très bien équilibrés, quoi. The Devil Rejects, ça, il y arrive, quoi. Il y a vraiment un alignement qui fait que le film parvient à être très bon et à être tout à fait cohérent du début à la fin, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas de ce qu'il fait après.
Ah bah non, parce que c'est vrai que, bon, Lord of Salem, en fait, qui est un espèce de thriller où il revisite le mythe, forcément, des sorcières de Salem.
Ouais.
Il a un problème évident monstrueux. En plus, le film... l'unique protagoniste c'est Sherry Moon Zombie, et ça montre à quel point que niveau acting elle est quand même très limitée. Et voilà, je vais dire ça comme ça. 31, en fait, là, vraiment le film original avec des maniaques déguisés en clowns, forcément ça ne ça, il y a plus cette force en fait qu'avait Devil's Reject, même si d'une certaine manière le plan de fin avec quelques, enfin la séquence de fin avec quelques fulgurances, le film n'arrive pas à avoir cette même comparaison en fait.
Non, parce que t'as pas du tout la même écriture derrière. Voilà. Hein, surtout.
Et donc en 2019, eh ben Rob Zombie s'est dit bon bah ma carrière rebat un peu de l'aile, qu'est-ce qu'on fait, on fait une suite. Et voilà, donc arrive le troisième film, donc suite de La Maison des Mille Morts et Devil's Reject, Free From Hell, qui d'ailleurs absolument pas du tout marché, qui est un film très anecdotique et qui a fait l'erreur donc même de donner une suite à cette fin merveilleuse qui était celle de Devil's Reject.
Ouais, mais tu vois, mais moi je pense qu'on est beaucoup comme ça à ne pas avoir regardé ce troisième volet, parce que même, enfin tu bah, vois, d'ailleurs, j'ai pas envie quoi.
Par chez nous en fait, le film est sorti directement en VOD, oui. Car ça montre aussi à quel point, c'est-à-dire que le cinéma tel que l'a vécu Rob Zombie dans les années 2000, pouvait encore marcher sans le circuit des salles. Mm. C'est-à-dire qu'il pouvait marcher avec notamment le marché du DVD. Parce que finalement, le marché du DVD était la suite logique du marché de la VHS. Bien qui sûr. Avait explosé dans les années 80.
Puis qui donnait la chance à ces films-là, en fait.
Qui donnait la chance à ces films-là. Et forcément, Free From Hell n'avait plus vraiment ce marché-là, parce qu'il faut quand même le dire, le marché de la vidéo est devenu à moitié élitiste, on va dire, d'une certaine manière. Et forcément, le numérique a un peu bouffé ce milieu-là. Et forcément, donc, ce qui est arrivé aussi, Free From Hell n'a absolument pas marché, quoi. Et je pense aussi que d'une certaine manière, même les fans, même les spectateurs ne voulaient pas avoir de suite pour ça.
Ben ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je dis, moi je ne l'ai pas vu, d'autres qui seraient, en tout cas, si ce n'est fan du premier, adepte de genre, je pense qu'on est beaucoup à ne pas avoir regardé la suite. Parce qu'à quel moment tu veux suivre des personnages auxquels tu as fait un adieu aussi beau à la fin de The Devil's Reject, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que tu peux encore me raconter avec ça, quoi. Bon, bah toi, tu l'as vu, Roland. Apparemment, il n'y a pas grand-chose à raconter.
Officiellement, non, il n'y a pas grand-chose à raconter. Je trouve que le film, en fait... raconte, on a déjà vu ce qui s'est passé avec Devil's Reject. Il y a quasiment rien à remettre en place en fait. C'est ça le problème.
Ouais, c'est un peu débile. Bon, et puis maintenant, je sais pas ce qu'il fait Rob Zombie, quoi, mais plus de nouvelles sur les radars. Il y aurait même pu y avoir une production sur Netflix.
Il a fait une adaptation
autre,
de la série The Monsters en 2022, je crois, sur Netflix, une connerie comme ça.
Voilà, ok.
Et sinon, depuis 2022, donc.
Ok.
Silence radio.
Ok. Bon, en tout cas, revoyez The Devil's Reject, quoi. C'est ça qu'on peut dire, parce que...
Pour les quatre dernières minutes, oui, on peut carrément le dire. Oui, Devil's Reject, c'était vraiment un film à voir, essentiellement. Bon, après, forcément, j'ai envie de le dire, si on parle d'un peu de cinéma d'horreur, un peu de cinéma extrême, donc il faut avoir le cœur bien accroché, d'une certaine manière.
Oui.
Mais c'est un film à voir, car ça montre aussi à quel point, en fait... Moi, je trouve fantastique la manière de Rob Zombie d'avoir eu cette idée de vraiment faire comme à l'époque. C'est-à-dire qu'il a certes eu l'idée, je trouve géniale, en fait, d'avoir pris un directeur de la photographie qui est très spécialisé dans le documentaire, qui va l'aider et élaborer, en fait, d'avoir une image, une conception, une patte très particulière à ce film. D'ailleurs, qu'il n'aura plus après pour la suite, d'ailleurs, c'est très drôle. Et qui va vraiment, en fait, montrer... pas seulement son amour, mais qu'il a un élan artistique derrière tout cela.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup la jaquette, l'affiche du film. Il oui. Y en a deux. Il y a une avec le titre en gros, en rouge, et les trois
qui est
derrière.
Très grindhouse. Hein,
à fond, tellement. Et moi, j'aime beaucoup celle française, surtout. Ouais. En tout cas, je sais qu'en France, c'est celle-là qu'on a eue.
Oui, qui a été choisie par Metropolitan.
Ouais. Qui est un peu verdâtre, jauni, comme ça. Mmh. Et c'est juste un plan qui n'est même pas dans le film. Hein.
Ah non.
C'est vraiment le long d'un motel. Il y a au
avec
loin.
Un bras
un
qui
flic
sort, ouais.
Qui est le dos, qui regarde pas, et juste un bras de cadavre qui sort. On voit pas de tueur, on voit même pas de quoi ça parle, mais je l'aime beaucoup cette affiche, déjà parce que elle a un petit côté un petit peu goré underground qui rend bien service au film, je trouve.
Ah mais totalement.
Et de pas montrer en fait, et de se dire ça va être quoi le sujet de ce film, quoi, tu vois.
Et surtout le titre en fait.
Ouais. Et The Devil's Reject, que tu ne vois pas sur la jaquette.
Non. Et ça permet aussi forcément de savoir, mais c'est quoi les Devil's Reject? C'est quoi les Rochefort du Diable? C'est bien évidemment la famille Firefly, quoi.
Ouais. Ou d'autres. On ne sait pas. Ou ça peut être d'autres. En tout cas, il y a en tout cas une volonté de Rob Zombie de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Qu'est-ce qui se passe derrière? Et du coup, de toi-même, en tant que spectateur, déjà te demander qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que j'ai envie de voir derrière ce cadavre qui est là?
Et au final, on a donc un road movie poisseux qui développe de vrais personnages totalement nuancés.
Ouais.
Et sans cinémascope, j'ai envie de dire.
Et sans cinémascope. non, c'est
cinémascope, donc c'est un format très bas où il y a beaucoup de barres noires pour les non initiés.
Qui fait la part belle aux grands espaces, quoi.
Au vraiment, western.
Si vous filmez vraiment des grands espaces, c'est vraiment ce cinémascope qui est tout indiqué. Là, c'est pas le choix de Rob Zombie, mais qui est toujours cette volonté de filiation années 70.
Exactement.
De couper avec ça.
Mais du coup, je terminerai par là-dessus. Je dirais que Devil's Reject, en fait, c'est un film très important à voir, car en fait, je le qualifie dans les grands films qui arrivent à nous questionner sur l'ambiguïté morale que l'on peut avoir à travers l'image.
Ouais, c'est ça. Et je pense que comment écrire des personnages, pas seulement par le script, mais aussi par la réelle et par le montage, surtout, c'est une très bonne leçon, moi, je trouve.
Oui, parce que c'est vrai qu'un tournage de 30 jours, 7 millions.
Ouais.
D'ailleurs, il y avait beaucoup d'éléments graphiques en SFX pur et dur qui devaient être faits, mais par faute de temps, ils ont préféré s'orienter sur le numérique. Et j'ai revu quand même un plan où ça se voit beaucoup, le lancer de couteau de Sherry Moon Zombie quand elle tue la blonde.
On voit
le numérique bien implanté au niveau du cœur, c'est vrai que c'est un petit peu grossier.
Mais sinon, c'est pas mal fait.
Mais à part
fait,
ça,
hein.
Le film s'en sort parfaitement bien.
Ouais, mais parce que au niveau des maquillages,
il y a
beaucoup. En fait, ils filment beaucoup plus. Ça y est, on repart sur autre chose. Mais ils filment beaucoup plus les corps après avoir.
C'est ça.
Où il y a des taches de sang, où il y a de la saleté, tous leurs fringues sont sales, tu vois, même le slip est sale, quoi. Tu vois, vraiment, tout est sale. Et du coup, beaucoup plus que des scènes gore, on a comment les fringues et les habits sont contaminés par ce qui s'est passé là. Mais tout est crade.
Rob Zombie, qui a fait beaucoup de repérages, expliquait d'ailleurs, vous imaginez pas à quel point les gens adore vivre dans la crasse, comme ça qu'il dit face caméra lors du documentaire. Bon, bref, on va s'arrêter là-dessus, donc avec forcément le morceau magique de Freebird que l'on entend à la fin du film. Merci Seb.
Merci
on
à
revient
vous.
La semaine prochaine pour un tout autre numéro. Ciao tout le monde.